Enfin, moi, le peu d'arguments pour la littérature abolitionniste que j'ai pu voir, ouais. Alors j'ai vraiment pas couvert le sujet dans le sens humain, c'est un, ils mettent en avant la surdité de l'emprisonnement pour bête, à savoir qu'on prive un individu des seuls moyens qu'il aurait de régler sa dette, ce qui me semble effectivement ça peut être un argument valable dans le système carcéral du 19e siècle, ça ne peut pas fonctionner pour le 14e et le 15e, parce que les prisons n'ont à peu près rien à voir, et que moi ce que j'arrive à comprendre, c'est qu'on négocie parfaitement avec d'autres, avec des tiers, dans l'après-même. Donc c'est pas cette chose-là ne joue pas apparemment. Qui est invoqué, bon, c'est une sanction, on évoque la sanction de la pauvreté, la peine des pauvres, mais là encore, on est dans un contexte deuxième où la prison est devenue une peine, elle n'est pas au Moyen-Âge. Bon, donc, parce qu'elle n'est pas d'abord au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, la prison est une peine en droit canonique pour l'institution, mais pour en droit royal français, notamment, mais pas seulement, la prison, ça a d'abord à garder dans l'attente d'un procès ou d'une peine, hein, et à surveiller et à contraindre. Elle ne sert pas d'abord à punir. D'accord ? Donc la peine est une chose, la peine de prison est une chose rare encore au XVe siècle. Donc voilà, les arguments, mais je vous donne un défi, je pense que Ricard pourrait soulever bien d'autres choses de cette rhétorique du XIXe siècle. Ça peut pas, on peut pas les replacer sur le Moyen-Âge. Mmh. Alors bon, moi, ce que je peux vous dire sur l'amont pratiquement 3, en amont, les arguments pour qui font qu'on réservait depuis Saint-Louis la contrainte par corps aux créances royales, d'abord, cette rhétorique juridique, elle n'est pas, je n'ai pas dans un discours clairement identifié, je n'ai pas dans l'ordonnance elle-même, je n'ai pas, bon. Donc, ça existe par lui. Je dirais qu'on peut aller chercher, quand on cherche autour dans la littérature, il y a peut-être deux éléments, deux thèmes, il y a le thème de l'usure, et donc l'ordonnance qui réserve la prison pour dette, l'ordonnance par laquelle Saint-Louis dit à ses officiers qu'ils ne pourront pas, dans l'école royale, prendre les corps des éditeurs. C'est la même qui réagit à une série d'enquêtes royales qui ont fait apparaître clairement les pratiques, enfin, qui dénoncent les pratiques usuraires. Ces enquêtes royales, on n'en a qu'une partie, mais ça, on voit assez clairement. Donc, il y a une association à cette époque entre contrainte par corps et usure. C'est-à-dire, contrainte par corps, et l'usure, c'est quoi? C'est en fait, les dossiers d'intérêt, on parlera bientôt, mais moi, la façon que je montre, c'est simplement une pratique du crédit qui est anormale. C'est-à-dire que c'est pas le prêt intérêt en général qui est condamné par l'usure, c'est simplement une transgression des normes économiques normales. Et contrainte par corps et usure sont associées. Et on retrouve cette association de loin à loin autour de la période. Donc la contrainte par corps, c'est pas le comportement d'un créancier normal, d'un créancier, on va dire, évidemment, chrétien, puisque c'est la normalité de l'époque. Le créancier doit faire crédit d'abord, il doit savoir faire crédit, il doit savoir prêter, ne pas refuser le crédit, il doit savoir patienter, il ne doit pas recourir à la voie de justice immédiatement, etc. Bon, la contrainte par corps, elle s'inscrit dans une série de décalages par rapport à cette norme-là, une norme morale hein, qu'on retrouve dans la littérature morale. Deuxième élément, donc il y a l'usure, et deuxième élément, il y a, là aussi ça apparaît dans les enquêtes qui ont précédé l'ordonnance de 1254, qui a interdit la pratique de la contrainte par corps dans les jeux royales, c'est que apparemment ce qui était pratiqué, on lit des enquêtes, c'était l'enfermement, non pas des débiteurs eux-mêmes, mais l'enfermement des dépendants des seigneurs pour les dettes des seigneurs. Ça apparaît dans les enquêtes. Alors bon, là encore, dans le contexte, c'est pas spécialement transposable ce qui se passe au 19e, vous voyez. C'est-à-dire que pour les dettes des seigneurs, un certain nombre d'agents royaux, de baillis, de prévôts, prenaient le corps de leurs dépendants, des hommes de leurs seigneurs. Et ouais, ça, c'est au milieu du
jour. Au même moment.
Oui, c'est ça. Les enquêtes, elles datent des années 1240, hein, 1247 et suivant. On les a pas pour Paris spécifiquement, mais on les a pour des bailliages voisins. Donc, ces choses-là apparaissent, et c'était apparemment une pratique des juridictions royales. Donc, il est possible que la règle formulée en 1254 vienne aussi à un comportement de cette pratique-là.
Bon.
Donc voilà pour ce qui est en amont de. Et voilà aussi pourquoi en 1303, quand c'est autorisé sous la forme, enfin, c'est autorisé à la seule à cette condition importante que le délit communal doit y avoir consenti pour lui-même.
Mmh.
Alors voilà pour ce que je peux vous dire pour les arguments et les rhétoriques qui peuvent qui contre un peu de mon courlette. Alors, les créances royales, elles disent qu'elles sont bon, les créances royales, c'est d'abord les créances qu'a le roi sur ses officiers, sur ses propres officiers, en fait. Donc les créances de ses receveurs d'impôts, par exemple, c'est ce type de choses. Donc la contrainte par corps, effectivement, est admise pour ce type de créances, hein, mais à l'intérieur, vers des comptes publics eux-mêmes. Et puis alors j'en viens à la question qui relève, qui termine mon papier, les enjeux entre emprunt corésien et relations de servage. Alors, est-ce qu'il existe d'autres interprétations sur la prison pour l'aide vraiment, c'est-à-dire que je dirais que. Pour l'instant, on considérait que la prison pour l'être était résiduelle, pratiquement inexistante à la fin du 15e siècle. Par ailleurs, ben, qu'on voit avec le cas, c'est même pour le 16e, 17e, 18e, 19e, c'est pratiquement pas étudié. C'est comme si ça n'existait pas.
En fait, c'est comme si j'étais tombé en des études.
Oui, mais en fait, c'est long de tomber en des études. Ça commence au très bien. Oui, mais
il y a peut-être du mieux personne par an.
Combien ?
2000, c'est énorme.
10 000 ou 2000 ?
10 000. C'est énorme.
C'est pas mal.
C'est pas du tout.
Surtout, surtout à Paris, c'est pas mal.
Voilà, mais ça dépend encore de ce qu'on appelle le résidu.
Voilà. En France, c'est pas mal.
2 000 enfants.
2 000 enfants.
D'accord. Ouais, moi aussi, je croyais. Je crois que c'était plus souvent.
Non, mais là encore, ça dépend aussi de.
Oui,
mais donc, il y a eu une sorte de. Ça a été un jeune négligé d'historiographie, et puis, d'après ce que vous dites, n'est pas forcément lié à une... au fait que ce soit négligeable, d'un point de vue quantitatif. Alors, d'où ça vient ? Peut-être qu'on considère comme ça, comme. Ce que tu montres, justement, dans ton bouquin, c'est que c'est pas négligeable, enfin, c'est pas. Justement, c'est pas négligeable, il y a des sources, on peut les étudier, etc. Donc,
oui,
comment étudier, comment analyser. Ce silence qui s'est marqué pour le fait que ça a été considéré comme...
Il y avait plus de 300 000 jugements des compagnies par corps. Mm-hmm. Et il y a...
Que 2000 qui vont nous...
Oui, il y a 2000 qui vont rencontrer le conseil entre l'arrêt et le jugement.
Les gens par an, j'ai l'air,
oui. Oui.
Bon, enfin, moi pour ce que j'en ai vu, c'est qu'il y a l'idée que le droit français est très protecteur, il y a une espèce de que le droit français ancien est très protecteur par rapport aux débiteurs. On a mis tout chez les anglo-saxons que j'ai vu, mais voilà, le droit français est très protecteur, trop protecteur, et donc finalement à empêcher, et cette protection des débiteurs, qui se manifeste notamment dans le fait que la prison pour dette est résiduelle depuis le XIIIe siècle, enfin bref, bon, que cette protection des éditeurs a été dommageable pour le développement des marchés, enfin du marché du crédit et des marchés en général. Ça, on le lit pas au courant, notamment il y a une idée aussi que ce droit français a été transposé dans le Canada français, ça s'opposait au Canada anglais. À l'inverse, on trace comme ça un partage très strict entre ce qui se passe en France et ce qui se passait en Angleterre, où très tôt, et le fait est que les magistrats de Châtelet le savaient déjà au début du XIVe siècle, où très tôt, la monarchie pouvait saisir le corps des débiteurs et a organisé ça apparemment. Très tôt. Bon, et au contraire, donc, on peut se partager entre système anglais puis anglo-saxon et système français. Voilà. Donc il y a aussi peut-être une histoire juridique en filigrane, mais aussi une histoire des systèmes économiques qui en filigrane. Bon, en France, il y a, pour le cas spécifiquement français et médiéval, je dirais qu'il y a une grosse présenteur aussi d'histoire du droit, hein, tout simplement. C'est que. Il y a l'idée que Saint-Louis a introduit des bonnes mesures, la portée du droit canonique en France a été telle que ceci a été freiné, donc il y a ça c'était aussi au 19e siècle, hein, dans les débats entre historiens du droit du 19e siècle qu'on perçoit ce genre de choses. Ils y sont nombreux qui ont ouvert les registres des cours.
Et il y a aussi, je pense, dans les débats académiques du 19e, l'idée que c'est vraiment un truc gothique, effectivement, qu'à l'heure où on abolit l'esclavage et ensuite, on ne peut pas garder ça, etc. Donc c'est tellement renvoyé à un archaïsme, alors qu'effectivement, enfin, les pratiques qui, par ailleurs, subissent n'ont rien à voir avec celles du Moyen-Âge, puisque c'est surtout une question de statut de commerçant et tout. Mais je pense que le fait que quand il y a eu beaucoup d'écrits là-dessus, c'était autour de l'abolition, et c'est pour dire que c'était vraiment un truc ridiculement archaïque. Du coup, ça n'a pas forcément incité à l'étudier beaucoup plus avant, ensuite au XXe siècle et maintenant, quoi.
Donc, pour revenir aux enjeux.
Oui, alors.
La relation entre l'obligation du corps et le servage.
Alors, oui, alors pourquoi. Parce que moi, mon problème, tout simplement, c'était de confondre en 1303, quand ça entre dans le droit royal, c'est d'où ça vient l'obligation du corps. C'est-à-dire d'où ça sort, comment on est inventé. En gros, comment les notaires, si c'est eux, pensent à inventer ce machin qui n'existait pas, qui n'y a pas de précédent. Alors vraiment, là, je veux dire, en matière de le droit, ça n'a pas de précédent romain, ça n'a pas de précédent canonique. Bon, voilà. Alors moi, c'était pour ça, j'essaie de comprendre d'où ça sort, et pourquoi ils transforment une catégorie romaine qui existe, l'obligation, mais qui n'a pas du tout le même sens, en une clause qui va entraîner, en une clause qui va porter éventuellement que sur le corps ou que sur les biens, une distinction comme cela. Et, bon, ma force a été de penser qu'il y avait une transposition de schémas qui sont les schémas de la dépendance de corps et de la dépendance de biens. Depuis le XIIIe siècle, bon, on distingue de plus en plus deux catégories de dépendants des seigneurs. Les dépendants de corps, mais qui sont vraiment de plus en plus une minorité, le servage en France ne concerne plus que les catégories très minoritaires, la situation même si ça peut changer d'une région à l'autre, ça reste quand même très minoritaire. La dépendance de biens, en revanche, elle est maintenue. Chaque terre a un seigneur, ça c'est évident. Et voilà, cette transposition, dépendance, homme de corps, homme de bien, homme de corps, dépendance de corps, dépendance de bien, et obligation corps et bien, il m'a semblé que ça pouvait être, comment dire, une catégorie effective. Les gens sont inventés cette chose. Mais parce que j'en vois, moi, il y a un truc qui a inventé, grosso modo, il y a autre à 1303, on en a des traces depuis les années 1280, et d'où ça vient. Il travaille sur un matériau romain, mais il aurait investi de catégories. Et c'est là que vous voyez la filiation, et la filiation, je la vois aussi dans les types de conventions qui tolèrent cette obligation cordélien. Donc les baux de fermage. Et on a effectivement très souvent l'idée que les fermiers des seigneurs ou les fermiers du roi ou des princes relèvent d'une catégorie de servile. Et puis il y a les salariats, les apprentis. Voilà.
Bon, merci pour ces points de discussion. La thèse est en cours, il y a plein d'éléments que vous donnez qui nous permettent de. J'ai beaucoup de points à bosser, mais je vais avec vos indications, et donc ça me permet de les travailler. Donc je n'ai pas de quoi répondre à
ça. Mais non,
c'est le principe.
Sur les plans d'étranglement qui n'ont pas été payés, je trouve ça très intéressant. Alors, j'ai quelqu'un qui me décrit très bien dans mon archive, franchement, je n'ai pas vu la moindre trace, donc je ne sais pas si. Je ne sais pas du coup si j'insiste au 4, au 4, si ça pourrait être. Alors, c'est intéressant, mais alors, franchement, je n'ai pas vu, mais je vais chercher tout. Voilà.
Tu es dans la rhétorique, mais tu ne pensais pas. Ne pensez pas à dire, mais attention, on fait donner le PEL, mais ça peut se retrouver. D'un coup, là.